pour racheter l'humanité. Est-ce que c'est juste ou est-ce que c'est faux? Croyants ou incrédules, ne sommes-nous pas dans l'ère chrétienne? Oui, Jésus est venu. Les évangiles nous racontent sa naissance, ses paroles, ses œuvres, sa mort, sa résurrection. Les actes des apôtres, qui couvrent une période d'une trentaine d'années, témoignent de la résurrection de Jésus-Christ et des fruits de son œuvre. En l'espace de 35 ans environ, l'évangile annoncé par une poignée d'hommes passé de Jérusalem, la ville juive, à Rome, la capitale du monde antique, en passant par Athènes, le centre de la sagesse humaine, et par Corinthe, au lieu de la luxure d'un monde au crépuscule. Les synagogues seront délaissées, les écoles des philosophes fermeront leurs portes, les lupanards perdront leur clientèle, les temples païens seront détruits, mais partout des communautés nouvelles verront le jour, formées de juifs et de païens, convertis au Christ et s'appelant frères, tandis que le monde les nommait chrétiens. Et c'est ainsi que commencèrent à circuler les lettres que les apôtres se virent contraints d'écrire à ces églises naissantes ou à de tels ou à des serviteurs appelés à continuer leur tâche. Ce sont les épîtres de Saint Paul, de Saint Jacques, de Saint Pierre, Saint Jean, Saint Jude, où la doctrine chrétienne est fixée définitivement. Enfin, avec l'Apocalypse de Saint Jean, un voile est levé sur les choses à venir, sur les événements qui doivent conduire à la consommation de toutes choses dans les cieux et sur la terre. Tel est en bref le contenu de la Bible. J'ai eu ce désir de vous rappeler des choses peut-être que vous connaissez, mais c'est bon de les rappeler. Jésus-Christ a rendu témoignage à toutes les parties de l'Ancien Testament, la loi, les psaumes et les prophètes. Jésus-Christ a choisi les écrivains du Nouveau Testament, des hommes comme Matthieu, Pierre, Jean, témoins oculaires de sa vie et de sa mort et de sa résurrection. Des hommes comme Luc, un médecin grec, et comme Saul de Tarse, juif, mais citoyen romain, autrefois ennemi des chrétiens, à ce blasphémateur, Jésus glorifié se révéla personnellement et lui communiqua son évangile qui est en tout point en harmonie avec celui des apôtres. Touchez maintenant à la Bible, ou plus exactement au message de la Bible, et vous touchez au Christ, mettant en doute son infaillibilité et sa divinité essentielle. C'est pourquoi, au terme de cet exposé, nous voudrions convier tous ceux qui se sont contentés d'une croyance d'examiner s'il ne serait pas temps pour eux d'avoir la foi et pour la posséder de revenir à la Bible. Mais direz-vous encore, dans cette lecture ne risquons-nous pas de nous égarer? L'abondance des sectes n'est-elle pas la preuve que chacun interprète la Bible à sa manière? Personne n'a la liberté d'apprendre une langue comme bon lui semble. Tous doivent se soumettre à des règles bien établies et universellement reconnues. Il en est de même pour l'étude de la Bible. Personnellement, je suis persuadé que les divergences de vues qui se manifestent chez les vrais chrétiens sur des questions de détail ou de forme ne viennent pas d'un désaccord essentiel sur le fond du message, mais du degré plus ou moins grand de lumière reçue et d'intimité que les âmes possèdent avec Dieu. Quant aux divergences profondes qui séparent ou opposent les communautés dites chrétiennes, je suis convaincu que tout vient de l'une ou l'autre des attitudes suivantes. Ou un attachement à une tradition à laquelle on donne plus de crédit qu'à la Bible, seule autorité en matière de foi, seule règle donnée par le Christ et les apôtres, et qui permet de contrôler la tradition, ou d'une position rationaliste qui s'autorise à mutiler, à émasculer ou à interpréter le message biblique. En revanche, tout homme sincère qui se fera une règle de ne rien ajouter, de ne rien retrancher au témoignage apostolique, trouvera facile d'être d'accord avec ceux qui se laissent juger et critiquer par le livre, plutôt que de se livrer à la critique du livre. Dans cette disposition, Vous pouvez lire la Bible sans crainte. C'est elle qui formera vos pensées, qui vous corrigera et mettra en lumière les contradictions de votre vie en vous faisant découvrir le vrai Dieu, non le bon Dieu de tous les braves gens, mais le Dieu puissant et saint, le Dieu de lumière et de vérité, le Dieu de justice, de grâce et d'amour. Et si vous rencontrez dans votre lecture le récit de choses scandaleuses, la mention de vices honteux, souvenez-vous que tous les jours, ces choses sont des friandises, des salves obscures. Vous comprendrez que la méthode de Dieu dans la Bible est de nous faire haïr le péché, de nous rendre, le rendre odieux et de nous en détourner. Vous saisirez alors que la méthode des hommes au cinéma et dans la littérature, c'est de faire passer le péché dans les mœurs. C'est vrai ou c'est faux ? Hein ? C'est ça. Tandis que la Bible vous donne la haine. Ça vous scandalise. Hein ? Qu'il y ait eu un Lot qui couche avec ses filles, etc. Et qu'est-ce que vous lisez dans les journaux maintenant ? Toutes ces filles qui attaquent leur père après des années parce qu'elles ont été violées par le père avec le consentement de la mère. C'est du beau monde, hein ? C'est faire passer le péché dans les mœurs, c'est de le faire aimer. Ainsi, ce n'est jamais la Bible qui est scandaleuse, mais bien le péché qu'elle dénonce. Dans le jugement de Sodome, c'est l'homosexualité de tous les temps que Dieu condamnait. Dans l'horreur que nous inspirent les actes de Lot et de ses filles, Dieu nous fait réprouver les incestes de notre propre siècle. Dans l'adultère et le crime de David, Dieu rappelle à nos contemporains qu'on ne saurait fouler aux pieds impunément ses lois. Et si ce livre nous parle de guerre, de sang répandu, souvenez-vous aussi que l'histoire du monde n'est qu'une succession de meurtres et de combats. C'est encore vrai aujourd'hui, hein. Et si Dieu parfois semble prendre la responsabilité de pareilles tueries, souvenez-vous qu'en des jours où l'impiété atteint son comble, Dieu fait succéder au temps de sa patience le temps de sa colère. Il peut ainsi frapper aussi bien par la guerre que par un tremblement de terre, un raz-de-marée, une inondation, une éruption volcanique, ceux qui refusent de se repentir. On pourrait dire aussi par le gel, hein, puis bien d'autres choses. Si l'homme donne à tous ces cataclysmes une explication scientifique, la Bible nous dit simplement qu'en toutes ces choses, Dieu parle aux hommes qui méprisent sa grâce et se révoltent contre lui, aux hommes qui vivent dans la contradiction, qui affichent une croyance et qui n'ont pas la foi. Amis, croyez-le, la Bible est un livre très saint qui sanctifie ceux qui le lisent. Vous qui cherchez la vérité, vous qui n'êtes pas satisfait de votre vérité et de celle des autres, pourquoi ne chercheriez-vous pas à sonder les Écritures, suivant ainsi le conseil du Christ qui disait « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Si vous, chrétiens, qui prétendez être des hommes de la Bible, voulez-vous vous poser ces questions ? Quelle place réelle la parole de Dieu occupe-t-elle dans ma vie ? Deux. Dans quelle mesure l'Écriture inspire-t-elle mes projets, mes plans ? Trois. Mes ambitions sont-elles en accord avec celles que Dieu a pour moi ? Quand la Bible ne sera plus seulement un livre de chevet, mais inspirera vos pensées, vos paroles, vos actes, le monde incrédule que Dieu aime encore pourra faire la différence entre la croyance et la foi, entre une religion formaliste et la vie véritable. Voilà, je m'excuse de vous avoir donné cette lecture, mais il me semble que ça résumait pas mal, au fond, ce que nous allons voir en détail par l'étude de l'Écriture. Mais maintenant, je sais au moins que vous ayez écouté ou que vous n'ayez pas écouté, que vous savez ce qu'il y avait dans cette brochure. Tous ne sont pas encore arrivés. Alors maintenant, on continue. Eh bien, chers amis, en ce matin, de joie. Je vous salue dans le nom du Seigneur. J'ai demandé à Dieu cette nuit qu'il me donne une parole qui corresponde à nos besoins d'aujourd'hui. Et cette parole que j'ai reçue, je l'ai inscrite en dessous de notre parole d'accueil. Hier soir, le Seigneur lui-même nous a accueillis en nous disant cette chose merveilleuse, le concernant. Moi, c'est donc Jésus qui parle, le ressuscité, le vivant. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Puis, s'adressant directement à chacun de nous, à celui qui a soif, et nous nous sommes posé cette question, est-ce que vous avez soif? Si vous avez soif, le Seigneur vous a fait cette promesse, je donnerai moi gratuitement de la fontaine de l'eau de la vie. Il ne suffit pas d'autre chose que d'avoir soif. Et je veux croire que vous êtes venu avec cette soif. Celui qui vaincra, il est question d'un combat, héritera de ces choses, je lui serai Dieu, et lui me sera fils. Et ce que nous avons vu hier soir, c'est que Dieu ayant un fils, nous pouvons contempler la vie qu'il a eue sur cette terre, dans ce monde où nous vivons, et songer à ce que Dieu a été pour son fils. Et ce que je voudrais que tous comprennent par la puissance du Saint-Esprit, c'est que comme Jésus a été traité, il veut nous apprendre que nous aussi nous serons traités de la même manière. Mais il nous faut marcher comme Jésus a marché. Mais nous pouvons, en 1998, nous pouvons connaître les soins du Père comme Jésus les a connus. Mais ça ne veut pas dire que nous n'aurons pas des tribulations dans le monde. Alors, ce matin, la parole qui m'a été donnée est celle-ci. Je vous ai parlé ainsi, c'est-à-dire ça se lie à ce qu'il nous a dit hier soir, ce qu'il était, le premier, le dernier. Je vous ai parlé ainsi, pourquoi? Bien pour que vous ayez la paix en moi. Dans ce monde, la paix, vous ne pouvez la trouver qu'en lui. Si vous n'êtes pas avec lui, si vous ne pensez pas à lui, si vous l'oubliez, eh bien, que voulez-vous? C'est naturel que vous ayez des soucis, des fracas, mais si chaque fois qu'une pensée justement de doute vous traverse, vous allez à lui, vous aurez la paix. Vous avez la paix en moi. Je vous ai dit ce que j'étais pour que vous ayez la paix en moi. Mais c'est ça la foi, c'est croire ce qu'il est. Et si je sais que Dieu va me traiter comme un fils, je suis en paix. Je ne comprends pas toujours pourquoi, mais je suis en paix. Je vous ai parlé ainsi pour que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations, et on a vu qu'on avait des tribulations dans ce monde. Notre frère Kloppenstein a eu cet accident qui pouvait un peu nous troubler. On se dit toujours, mais pourquoi on vient dans un lieu pour le Seigneur et puis voilà qu'il y a un accident. Nous ne pouvons peut-être pas comprendre. Mais vous devez rester dans la paix. Vous aurez des tribulations. Ne vous étonnez pas. Le Seigneur a toujours dit que nous aurions des tribulations dans le monde. Vous devez vous attendre aux tribulations. C'est dans le programme. Mettez cela une fois pour toutes. Dans votre cœur, c'est dans le programme que nous ayons des tribulations. Mais quand on est averti, alors on n'est pas surpris des tribulations. Le Seigneur a eu des tribulations dans le monde, mais son Père ne l'a pas laissé, et il est toujours resté dans la paix. Vous aurez des tribulations dans le monde, oui, c'est dans le programme. Mais alors quoi? Ayez
bon courage. Ayez bon courage. C'est ce que le Seigneur veut que nous ayons aujourd'hui. Ayez bon courage. Malgré vos tribulations, que moi je ne connais pas, mais que Dieu connaît, il vous dit, ayez bon courage. Pourquoi? Parce que moi, c'est toujours lui, j'ai vaincu le monde. Donc la victoire, si vous la donnez, c'est en pensant au Seigneur. C'est en Jésus et en Jésus seul que vous avez la victoire. Et il vous la donnera. Il l'a donnée déjà à nos amis parce que il aurait pu être tué aussi. On a vu avant-hier tous ces gens tués dans un accident. Le Seigneur a mesuré l'épreuve, mais c'était dans le programme. Vous avez des tribulations dans le Seigneur agira. Ayez bon courage. Qui est-ce qui a vaincu? C'est le Seigneur. Il n'y a pas de victoire pour nous en dehors de Jésus. Pensez à Jésus. Revenez tout de suite au Christ et vous avez la victoire. Et voyez-vous, dans sa prière à son Père, qu'est-ce que Jésus disait au chapitre 17 de Jean, parlant des siens, il dit, ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Et il dit ensuite, je ne te demande pas de les ôter du monde. Alors, puisqu'il ne demande pas encore de nous ôter du monde, nous aurons des tribulations. Je ne te demande pas de les ôter du monde, mais de les garder du mal. Et voilà, vous avez déjà été exaucé. Il y a des dégâts matériels, mais vous avez la vie sauve. Vous pouvez encore continuer. Ayez bon courage, j'ai vaincu le monde. Et quand j'ai vu ce que Dieu faisait après la pluie d'hier et le brouillard, bien aujourd'hui, j'aime tellement ce tableau, vous l'avez, il y a du soleil, c'est Dieu qui nous donne le temps qu'il a voulu. Ne dites jamais quand il pleut ou quand il fait mauvais temps, c'est un temps de chien. Vous prenez Dieu pour un chien? Que le Seigneur nous garde et nous préserve dans nos pensées et que toujours nous puissions le bénir parce que même si nous ne comprenons pas le pourquoi de certains événements, eh bien nous savons que Dieu règne. C'est lui qui est le premier et qui est le dernier et il nous traite comme des fils. Que Dieu remplisse nos cœurs ce matin de cette certitude et qu'il nous prépare pour les études qui vont suivre. Maintenant, hier, comme plusieurs n'étaient pas arrivés, nous avons été conduits à quelque chose d'un peu exceptionnel, à vous lire cette brochure. Ça ne plaisait peut-être pas à tout le monde, mais si j'ai fait cela, c'est pour obéir au Seigneur. Parce que nous aimerions que vous puissiez distribuer des traités. Mais quand on distribue un traité, il faut l'avoir lu. Si vous ne l'avez pas lu, ça n'a aucun sens. Il faut que vous sachiez ce que vous donnez à une âme. Alors, si vous avez connaissance de ce traité et que vous estimez qu'il peut être utile à quelqu'un, vous pouvez le donner avec prière. Hein? Mais vous savez ce que vous donnez à ceux qui prétendent avoir une croyance et qui doivent découvrir que la croyance, ce n'est pas la foi. La foi, ce n'est pas autre chose que de croire ce que Dieu dit et de le prendre au mot. Eh bien, ce matin, nous voulons prendre au mot le Seigneur Jésus qui nous dit ces choses pour que nous ayons la paix en nous. C'est quelque chose d'avoir la paix en nous. Maintenant, il y a quelqu'un qui a un peu devancé nos réunions, parce que à cette demande, à la page 8, doit-on lire certaines portions là, appropriées. Mais vous aurez cela, on en parlera tout à l'heure. Et puis, je vous dirai, tout le monde n'était pas là hier soir, on ne pouvait pas tout dire hier soir. Alors,
à la page 6, vous avez la réponse. Lecture proposée pour ce matin, c'est le chapitre 11, versets 1 à 22. On ira progressivement, s'il y a d'autres lectures, que nous vous indiquerons. Nous voulons prier maintenant. Dieu notre Père, nous te remettons non seulement ces journées que nous allons passer ensemble, mais chaque heure. Nous te remettons chaque moment et nous te demandons que tu prépares nos cœurs, que tu illumines notre intelligence et que tu sanctifies notre mémoire pour que nous puissions retenir ce que tu as à nous dire aujourd'hui et en vivre en Jésus-Christ à ta gloire et expérimenter que dans ce monde où nous avons des tribulations, nous avons aussi un Père qui veut nous traiter comme son Fils et nous donner des délivrances proportionnées à toutes nos épreuves pour ta seule gloire, afin que nous ne soyons que louange, honneur et gloire pour toi dans nos vies, là où tu nous as placés. Amen. Eh bien, mes amis, maintenant, nous allons aller à la cafétéria. Eh bien, chers amis, j'espère que vous avez bien mangé à ce petit déjeuner. Personne n'a faim maintenant, mais je désire que vous ayez toujours soif. N'est-ce pas ? Soif, comme nous l'avons vu hier soir dans notre introduction, parce qu'il y a une promesse pour ceux qui ont soif. Le Seigneur veut vous bénir. Et alors, tout le monde a eu les feuillets jaunes. Je vous ai averti que j'ai dû faire ce travail dans une période très difficile où j'étais continuellement interrompu par le téléphone. Alors, il y a peut-être des imperfections, de sorte que je vous demande de les corriger. Quant aux pages, c'est noté seulement jusqu'à la page 14. Le reste, ce sont des pages pour vos notes que vous pouvez prendre. Il y a une page 25 seulement, alors qui est notée, à la fin, où nous avons un peu récapitulé les textes qui nous auront occupés pour qu'il vous reste quelque chose de cette session. Alors, ce matin, est-ce que vous avez aimé la musique? On remercie encore notre cher ami André Monette qui a passé dans les couloirs. Hier soir, avec ce feuillet jaune, on vous a distribué cette petite brochure « Croyance ou foi ?». Tout le monde n'était pas là, alors nous ne pouvions pas commencer encore tout à fait le sujet, mais cette brochure traite de ce sujet quand même. Et j'aimerais ajouter ceci. Je l'ai dit ce matin, quand vous distribuez une brochure à quelqu'un, il faut que vous l'ayez lue. Et comme j'avais quelques craintes que vous ne lisiez pas, je vous l'ai lue hier soir. Ce n'est pas mon habitude, mais j'ai pensé que c'était bon que vous puissiez savoir ce qui était écrit. Et je dirai tout de suite que, il y a plusieurs années, quand j'étais à Nice, le Seigneur m'a appelé à louer une grande salle, tout à fait dans le monde, c'était une salle de théâtre, et à faire tous les mardis, entre 5h et 7h, une conférence. On allait avec nos jeunes sur les rues et on invitait les gens. Et les gens venaient, les gens de la rue, parce qu'entre 5h et 7h, à Nice, tout d'un coup, il fait froid. Enfin, il y a une espèce d'humidité et les gens ne savent pas où aller parce que ce n'est pas encore l'heure du souper. Alors, ils venaient là, dans cette salle. Et j'ai commencé la première conférence. Dieu est-il responsable du péché ? Les gens étaient là, c'était déjà plein. La deuxième conférence, on annonçait la conférence pour le mardi suivant, l'athéisme pratique. Et ce sujet était la continuation de la première brochure, de la première conférence, comprenez-vous? Et puis, après l'athéisme pratique, donc on ne chantait pas, il n'y avait rien, on entrait directement dans la conférence, croyance ou foi, celle que vous avez, dont vous avez pris connaissance hier. Et puis ensuite, connaissance ou obéissance. Alors, ceux qui étaient venus à la première et qui avaient été intéressés venaient à la seconde, puisqu'ils savaient que ce serait une suite en quelque sorte. Mais chaque conférence est complète en elle-même. Et puis, ensuite, alors, on arrivait à « Que pensez-vous du Christ ?» Amener les gens à prendre position au sujet du Christ. Et une fois que l'on sait quelque chose au sujet du Christ, peut-on être de nouveau ? Parce qu'on ne peut pas commencer une conférence, la première, avec « Peut-on être de nouveau ?» C'est un peu difficile pour les gens qui n'ont jamais entendu parler de ça. Alors, vous voyez, il y avait une gradation. « Peut-on être de nouveau ?» Puis, une fois qu'on est né de nouveau, alors on peut aborder des sujets plus difficiles. L'homme face à la souffrance. Pourquoi la souffrance ? Pourquoi Dieu permet-il la souffrance ? Et puis, ensuite, même qu'on n'aime pas en parler, l'homme face à la mort, comprenez-vous? Mais il faut être né de nouveau pour comprendre tout cela. Puis ensuite, on ne veut pas rester sur l'homme face à la mort, qu'est-ce que c'est vivre? Et les gens étaient venus et puis ils ont été enseignés comme cela. Donc c'était une évangélisation un peu spéciale, hein, mais qui était une évangélisation purement biblique. Et nous n'essayons pas de faire un appel nous-mêmes. On mettait les gens en face de l'Écriture sainte. Puis après, j'ai fait 4 conférences, l'homme face à la... L'homme est sa destinée, puis ensuite, le monde est sa destinée, puis l'Église est sa destinée, parce qu'il fallait bien parler de l'Église aussi, et enfin, Israël est sa destinée. Et quand on a fait Israël et sa destinée, il y avait presque toute la synagogue qui était là. Vous voyez, alors, c'était quelque chose de graduel. Mon ami Jules-Marcel Nicole, qui était le directeur de l'Institut biblique de Nogent, me disait, mais Gaston, tu aurais dû faire ça sur un gros livre, hein, tout ensemble, puisque ça se tient. Mais non, je ne l'ai pas fait sur un gros livre, parce qu'on ne lit pas les gros tomes. Hein. J'ai fait ça en petite brochure, parce que c'est accessible à tous. Puis quand vous en avez lu une, si vous voulez lire les autres, vous les lisez. Et puis, ça ne se vend que 25 cents, hein, la brochure. Donc, c'est accessible à tous. Mais, je dirais tout de suite qu'on ne fait pas ça pour les vendre. Si vous en désirez et que vous n'avez pas les moyens, mais que vous voulez bien les lire et pouvoir les donner selon les besoins que vous rencontrez, nous vous les donnerons aussi. Parce que moi, un jour je serai loin, mais j'espère être loin avec vous, parce qu'on n'attend pas la mort, hein, on attend le Seigneur Jésus. Mais je ne veux pas que ça reste, hein, ici. C'est pour ça que nous envoyons beaucoup en Afrique maintenant, parce qu'ils nous en demandent beaucoup. Et je viens de faire un envoi depuis la France, gratuit, pour Madagascar. Mais évidemment, l'expédition de ces colis coûte cher, c'était 600 francs français pour l'expédition, mais on en envoyait plusieurs, parce que nous voudrions répondre aux besoins des âmes. Et ce dont les âmes ont besoin, c'est de la parole. Voilà. Comme ça, vous voyez un petit peu quel est le but et le travail. Maintenant, vous avez vu en lisant cela que nos retraites doivent vous donner la possibilité de lire la Bible dans vos chambres. Mais la première réunion que nous avons maintenant ici, nous l'avons comme introduction
Et vous pouvez prendre la page 4 qui traite du sujet opinion ou conviction. Mais en réalité, ce que nous désirons traiter en juin, c'est la foi. Et puis, si Dieu le permet, nous aurons en octobre la suite qui sera l'espérance et en novembre l'amour ou la charité. De sorte qu'il sera question des trois vertus chrétiennes, les vertus qu'on appelle les vertus théologales, donc qui nous parlent toujours de Dieu, de théos, Dieu, les vertus théologales, la foi. Est-ce que nous avons une opinion sur la foi ou bien est-ce que nous avons une conviction? Et puis, au sujet de l'espérance, qu'est-ce que c'est que l'espérance? Qu'est-ce que vous espérez? Et puis, au sujet de l'amour. Et nous espérons que il y aura un fruit à la gloire de Dieu. Alors, j'ai marqué ici, à la page 4, ce que nous trouvons dans les dictionnaires, ou plus exactement encore, voyons, aidez-moi. Dans les synonymes, hein? Les synonymes, opinion, c'est une appréciation, c'est un avis, c'est une croyance. C'est une façon de voir, c'est une idée, c'est une impression, c'est un jugement, c'est une pensée, c'est un point de vue, c'est une position, un sentiment, une tendance, une théorie. Mais d'une opinion, on n'est jamais sûr, on n'est jamais certain. Une opinion, ce n'est pas une certitude. Alors, en opposition à opinion, nous avons conviction. Les convictions, c'est une adhésion, une assurance, certitude, une confiance, une croyance, oui, une évidence, on met aussi foi, et une persuasion. Et alors, si on prend foi, dans son sens général, la foi est la croyance qui repose sur le témoignage. Quelqu'un a témoigné. Alors, avoir foi en quelque chose, c'est adhérer sur le témoignage d'autrui à une vérité que nous ne pouvons pas vérifier nous-mêmes. Il suit donc que la foi est divine ou humaine, selon que le témoignage vient de Dieu ou des hommes. Si c'est des hommes qui vous disent quelque chose et que vous le croyez, vous avez une foi humaine. Mais si vous savez que c'est Dieu qui l'a dit, alors votre foi est divine et vous avez une assurance. Mais c'est pour ça qu'il faut être sûr qu'il y a une révélation divine, une révélation de Dieu. Et comment peut-on en être sûr? Bien, la Bible nous dit que c'est une révélation de Dieu. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu. Alors il nous faut contrôler cela. C'est pourquoi, si vous voulez avoir la foi, il vous faut lire la Bible. Et je revoyais certaines notes de mon ami René Pache, qui est auprès du Seigneur maintenant, eh bien, il disait, ma mère, qui était une croyante, m'a donné un jour en me disant, puisque tu sais l'anglais, je te donne la Bible Scofield, qui n'était encore qu'en anglais. Et c'est par la lecture de cette Bible Scofield que René Pache s'est converti. Vous trouvez que c'est merveilleux, hein? Simplement, lui-même, il dit, c'est ma première école biblique.
c'est la lecture de la Bible. Mon école biblique, ça a été la lecture de la Bible. Mais ce qui m'a beaucoup affligé, c'est que cet homme, René Pache, que j'ai bien connu, qui me montrait tout ce qu'il faisait, eh bien, il était directeur de l'Institut biblique Emmaüs en Suisse, et puis maintenant, dans la direction, il y a un autre courant qui prend de plus en plus, où on décrit ce que René Pache a fait, a écrit, et on dit qu'on ne peut pas attendre le Seigneur à tout moment. Alors, ça m'a bien affligé, et puis, ils mettent en garde contre la Bible scophile. J'ai écrit pour un peu protester, mais je voudrais que vous ayez, vous aussi, des convictions. Non pas les convictions de M. Pache, ou les miennes, mais que, par la lecture de la Bible, vous soyez arrivés à croire d'une façon qui vous aide dans un monde où tout est difficile, parce que nous avons toujours le Dieu qui a répondu à Abraham, le Dieu qui a répondu à Moïse, le Dieu d'Isaac, de Jacob. C'est notre Dieu, et ce qu'il a fait pour ses hommes, il va encore le faire pour nous, si nous nous attendons à lui. Parce que il nous a envoyé qui ? Son Fils. Il y a eu une heure, comme je l'ai dit souvent, dans l'histoire de l'humanité, où Dieu a été vu et a enseigné sur la terre. Il y a bientôt 2000 ans, apparu Jésus. Et nous sommes à la fin de ces 2000 ans. Et tout ce qui était annoncé au sujet de Jésus s'est accompli, ses souffrances, sa mort, son rejet, mais aussi sa résurrection, son élévation dans la gloire, de sorte que le Seigneur que nous connaissons, c'est un Seigneur qui est maintenant où ? Dans le ciel. Nous ne le voyons pas, mais nous croyons en lui, nous le prions, et ce que nous savons, c'est qu'il a promis son retour et qu'il reviendra. C'est lui que nous attendons, et c'est lui qui va apporter la délivrance, soit pour Israël, mais aussi le salut pour tous les Arabes qui veulent se tourner vers lui, et puis l'enlèvement de ceux qui ont cru en lui et qui croient en lui maintenant. Et je dis ceci, le mot « foi » se rencontre plus de 250 fois dans la Bible, et dans les Écritures, ce mot peut désigner l'ensemble des vérités qui ont été révélées par Dieu. Donc les vertus chrétiennes, elles ont toujours Dieu comme but, comme principe. Puis, la foi peut désigner aussi le degré dans lequel une âme est entrée dans la connaissance du Seigneur. C'est pour ça que la foi peut être petite ou grande, et qu'elle doit pouvoir augmenter, c'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Et puis, elle est aussi considérée comme un don de Dieu. La foi est un don de Dieu, mais un don qui peut être distribué à quiconque croit. Et puis, c'est vraiment le moment, la foi, où votre cœur s'ouvre et vous acceptez le Seigneur comme votre sauveur. Alors maintenant, je vais vous dire comment on a réparti. On vous a réparti dans 9 ateliers. Quand vous irez dans votre champ, ce que nous vous proposons de lire samedi matin, c'est à la page 6. Les lectures proposées C'est Hébreux chapitre 11 d'abord, versets 1 à 22. Vous avez vos Bibles, nous allons en faire tout de suite la lecture ensemble, une première lecture. Parce que si vous voulez grandir dans la connaissance de la parole, il ne faut pas avoir peur de lire une fois, deux fois, trois fois le même texte. Parce que chaque fois le Seigneur va nous parler et nous révéler davantage ses pensées. Chapitre 11 des Hébreux. Vous trouvez les Hébreux dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau? Dans le Nouveau. Et ils viennent avant les épîtres de Paul ou après? Après. Nous avons souvent enseigné que les épîtres de Paul, il y en a 14, hein, et pour savoir ne pas trop chercher où se trouve une de ces épîtres, on a fait simplement Romains, hein, 2 Corinthiens, Galles et Phi, Colossiens, Titi, hein, Rococo, Galéfi, Tété, Titi, Si. Voilà. Alors, vous savez cela par cœur, et ça vous aide. Et après vient l'épître aux Hébreux, qui est suivi de Jacques, 1 et 2 Pierre, ensuite 1, 2, 3 Jean, et finalement l'Apocalypse. Vous pouvez vous asseoir. Alors, nous ouvrons Épître aux Hébreux. Nous savons où elle se trouve maintenant. Chapitre 11. Or, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est à cause d'elles que les anciens ont reçu un bon témoignage. Alors, si les anciens ont reçu un bon témoignage à cause de leur foi, qu'est-ce qui peut nous arriver à nous? Si nous avons la foi, on aura un bon témoignage. Et vous savez, quand on parle de réunion de témoignages, quelquefois on entend quelqu'un nous dire tout ce qu'il a expérimenté, mais ceux qui le connaissent bien ne pensent pas toujours comme lui, parce qu'ils se souviennent qu'il n'a pas eu toujours un bon témoignage. Alors, ce qui est important pour nous, c'est que le monde témoigne de nous. C'est cela qui compte, parce que nous pouvons dire nous-mêmes, mais que le monde dit, c'est vrai, ils ont un témoignage. C'est à cause d'elles, donc c'est important d'avoir la foi, c'est à cause de la foi que les anciens ont reçu un bon témoignage. C'est par la foi que nous comprenons. Donc la foi vous ouvre la compréhension. Sans la foi, on ne peut pas comprendre. Alors vous voyez combien c'est important. Si vous voulez comprendre quelque chose dans votre vie, dans votre situation, il faut que vous ayez la foi. Par la foi, nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu. De sorte que ce qu'on voit, donc la nature, ne provient pas de ce qui est visible. C'est par la foi, alors vous avez maintenant des noms, qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice de plus grande valeur que celui de Caïn. Cela vous amène à la Genèse. Et c'est pourquoi j'ai mis, non pas que vous deviez lire, mais c'est simplement pour que vous sachiez que c'est dans ces chapitres-là que vous pouvez entendre parler d'Abel. Il est mis, lecture proposée, Hébreux 11, c'est ce que nous sommes en train de dire, mais aussi Genèse 1 à 12. Dans Genèse 1 à 12, vous trouverez des détails sur les noms qui figurent sous la page. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice de plus grande valeur que celui de Caïn. Par elle, il fut déclaré juste, Dieu lui-même rendant témoignage à ses offrandes, et par elle, quoique mort, il parle encore. Voilà un mort qui parle encore. C'est Abel. C'est par la foi qu'Enoch, et si vous voulez avoir des détails sur Enoch, il faut aller dans la Genèse, chapitre 5, où vous trouvez l'histoire d'Enoch. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé, de sorte qu'il ne vit pas la mort, et on ne le trouva plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il a reçu le témoignage qu'il plaisait à Dieu. C'est un beau témoignage, ça. Est-ce que nous recevons du monde le témoignage que nous plaisons à Dieu? Verset 6. Or, sans la foi, ça c'est capital, il est impossible de lui plaire, de plaire à Dieu. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti de ce qu'on ne voyait pas encore, est saisi d'une pieuse crainte, construisit une arche pour sauver sa famille. Donc vous voyez tout de suite ici que la foi est suivie de quoi ? D'une action, d'une œuvre. Et je voudrais souligner, quand on me dit toujours, moi il y a tant d'années que je suis converti, c'est bien. Mais est-ce que vous l'êtes aujourd'hui ? Ouais, il y a tant d'années que je suis sauvé. Mais est-ce que vous êtes sauvé aujourd'hui ? Est-ce que votre vie prouve votre salut ? Que vous êtes en possession du salut actuel de Dieu dans vos circonstances ? C'est par la foi que Noé, divinement averti de ce qui ne se voyait pas encore, est saisi d'une pieuse crainte, construisit une arche pour sauver sa famille. S'il n'avait pas fait l'arche, est-ce qu'il aurait été sauvé? Qu'est-ce qu'il a sauvé? Il a cru ce que Dieu disait au sujet du déluge qu'il n'avait pas vu. Il n'avait pas vu de déluge. Il semble qu'il n'avait pas plu jusqu'à ce moment-là. Et voilà que on lui dit de construire un bateau. Donc il a cru. Mais la foi nous amène à une œuvre. Parce que la foi sans les œuvres, elle est morte, dit l'Écriture. Vous voyez comme tout se tient. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi qu'Abraham obéit à l'appel de Dieu en partant vers un pays qu'il devait recevoir en héritage, et il partit sans savoir où il allait. La foi est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il a démontré l'authenticité de sa foi. Il croyait Dieu. Pourquoi est-ce que tu parles ? Parce que Dieu me l'a ordonné. Et j'ai été conduit à traiter le sujet comme ça pour que vous-même, vous puissiez répondre à ces questions selon les Écritures pour comprendre la création, que nous faut-il ? C'est une des questions. Et puis, troisièmement, que nous apprend la vie d'Abel au sujet de la foi ? Ensuite, la vie d'Enoch, la vie de Noé. Vous allez y penser dans votre demi-heure d'étude dans vos chambres. Puis la vie d'Abraham, car, verset 9, c'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme en un pays étranger, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob héritaient avec lui de la même promesse, car il attendait la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte, est le constructeur. Verset 11. C'est par la foi aussi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable de donner le jour à une descendance parce qu'elle tint pour fidèle celui qui a fait la promesse. Mais vous allez voir, si vous lisez ce qui s'est passé dans la Genèse, dans ces chapitres que je vous ai cités, où vous pouvez trouver la réponse, qu'il y a eu une lacune dans la foi de Sarah. Qu'est-ce qu'elle a cru faire? Comme ça tardait, elle a voulu aider Dieu. Et ce qui nous coule toujours, c'est que nous voulons aider Dieu, au lieu d'attendre. Attendez la délivrance du Seigneur. Et je l'ai dit souvent, c'est le dernier quart d'heure qui est le plus difficile. Hein. Mais si vous pouvez tenir le dernier quart d'heure, alors vous avez une délivrance merveilleuse. Et vous êtes dans la louange. Mais que Dieu vous donne cette patience. Mais ce qui est merveilleux, c'est que dans ce chapitre, il n'est pas parlé de cette défaillance. Mais quand vous lisez dans la Genèse, il en est question. C'est pour ça que c'est toute la Bible qui doit vous inspirer. Mais souvenez-vous que Dieu ne va pas vous rappeler tous vos manquements. Parce que c'est ça qui vous donne la culpabilité. Et on m'a dit souvent qu'au Québec, on avait un complexe de culpabilité. On a été coupable, bon. Mais quand on est au Seigneur, il nous enlève la culpabilité. Et il nous donne une bonne conscience parce que lui a payé pour notre faute. Et quand quelqu'un a payé pour notre faute, on ne peut plus rien nous demander. Alors vous êtes dans la joie, dans la reconnaissance et dans la paix. Mais vous ne pouvez pas vous glorifier parce que vous savez toujours qu'il avait commis cette faute. Vous le savez, mais elle ne vous trouble plus. La question du péché, c'est quelque chose qui doit être réglé. Quand vous l'avez confessé, ne revenez plus avec cela. Le diable va toujours revenir avec ces choses pour vous enlever la joie et puis vous montrer que vous n'avez pas satisfait toujours la volonté de Dieu. Mais moi non plus. Mais je suis un pécheur, mais sauvé par grâce. Et il est dit que le Seigneur n'est pas mort pour rien. Il est mort pour quelque chose. Pour que nous soyons libérés, délivrés. C'est cela que vous devez recevoir. La paix. Et dans la lecture de ce chapitre, vous verrez, il n'est pas parlé du manquement de Sarah. C'est beau. Verset 12. C'est pourquoi d'un seul homme et d'un homme déjà atteint par la mort, c'est de qui il est question ici? C'est Abraham, hein, sont issus des descendants aussi nombreux que les étoiles du ciel et que le sable qui est au bord de la mer et qu'on ne peut compter. Verset 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu des choses promises, mais ils les ont vues et saluées de loin. Donc ils ne sont pas morts déçus, mais dans la certitude que Dieu accomplirait tout cela. Ils les ont vues et saluées de loin en confessant qu'ils étaient étrangers et résidents temporaires sur la terre. On n'est pas pour toujours sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent clairement qu'ils recherchent une patrie. Et s'ils avaient eu la nostalgie de celle qu'ils avaient quittée, ils auraient eu l'occasion d'y retourner. D'où venait Abraham, vous le savez?
D'Ur de Chaldée.
D'Ur de Chaldée, mais c'est où? C'est en Irak. C'est chez qui? Chez Saddam Hussein maintenant. Il ne voulait pas y retourner. Abraham. Mais en réalité, ils aspirent à une patrie meilleure, c'est-à-dire une patrie céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Vous voyez qu'on rejoint ce qu'il nous a dit là. Il n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Dieu ne doit pas avoir honte de nous, parce qu'il nous a fait grâce. Il leur a préparé une cité. Verset 17. C'est par la foi qu'Abraham, mis à l'épreuve, a offert Isaac. Tout cela, vous l'avez dans la Genèse. C'est son fils unique qu'il offrait, lui qui avait reçu les promesses. Alors on se dit, mais comment Dieu avait fait cette promesse, puis maintenant il me demande mon fils? C'est un combat, hein? Mais si c'est Dieu qui parle, qu'est-ce qu'on fait? On obéit. Et tout en marchant avec son fils, Abraham a pensé, mais Dieu tiendra quand même sa promesse. Et il est arrivé à l'idée que même s'il devait égorger son fils, qu'est-ce qui arriverait? Dieu lui redonnerait son fils par une résurrection. Personne n'avait été ressuscité jusque-là, on ne savait pas ce que c'était que la résurrection. Mais dans une telle épreuve, Dieu lui donne la révélation de la résurrection. Et c'est pourquoi dans vos épreuves, si vous pouvez tenir ferme, vous aurez une bénédiction immense. Verset 19. Abraham comptait que Dieu est puissant même pour faire ressusciter d'entre les morts Isaac. C'est pourquoi son fils lui fut rendu. Il y a là un symbole. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü en vue de l'avenir. C'est par la foi que Jacob, au moment de mourir, bénit chacun des fils de Joseph et qu'il se prosterna s'appuyant sur l'extrémité de son bâton. Mourir dans la foi. C'est par la foi que Joseph, proche de sa fin, fit mention de l'exode des fils d'Israël et qu'il donna des ordres au sujet de ses ossements. Alors, vous lisez jusque-là ce chapitre et vous le méditez. Et en le méditant, vous essayez de répondre à ces questions. Alors, je reprends le papier jaune, page 6, questions suggérées. Et je vous invite aussi à lire Romains chapitre 4, parce que là, vous y trouverez des renseignements sur Abraham, qui s'ajoute au chapitre 11 de l'Hébreu. Alors, première question. Doit-on voir au verset premier du chapitre 11 des Hébreux, vous l'avez là, hein, alors vous le relisez, or la foi c'est l'assurance des choses qu'on espère, la conviction, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Doit-on voir au verset premier du chapitre 11 des Hébreux une définition de ce qu'est la foi, ou plutôt un de ses caractères? Qu'est-ce que vous diriez? Un caractère, c'est pas une définition de la foi là, comprenez-vous? Mais c'est un des caractères de la foi. Et puis, deuxième question, selon les Écritures, pour comprendre la création, que nous faut-il? La foi. Pas sans ça, vous croyez au... à l'évolution ou au grand bond. Alors vous n'avez aucune certitude. Et puis on vous ramène toujours des siècles en arrière dans l'ombre, dans la nuit. Troisième question. Que nous apprend la vie d'Abel au sujet de la foi? Réfléchissez là-dessus en lisant dans la Genèse. Qu'est-ce que Abel, comment est-ce qu'il a été conduit? Qu'est-ce qu'il a cru pour qu'il ait été agréé, alors que Caïn a été rejeté? Maintenant, la vie d'Enoch, qu'est-ce qu'elle nous apprend? Dans ce chapitre 5 de la Genèse, où il est dit que tous les hommes, et il mourut, et il mourut, et il mourut, et d'Enoch, il est dit, il ne fut plus. Pourquoi? Alors, il faut qu'il nous apprenne quelque chose au sujet de la foi. Et ça nous montre que la foi, c'est notre vie. C'est dans la vie. Ce n'est pas se souvenir qu'un jour on s'est donné au Seigneur seulement, mais c'est qu'aujourd'hui on est au Seigneur. Maintenant, la vie d'Abraham, qu'est-ce qu'elle nous apprend? Puis la vie de Sarah, la vie d'Isaac, de Jacob et de Joseph. Vous aurez les réponses si vous méditez vous-même, alors vous êtes maintenant dans votre chambre, vous priez, vous relisez ce texte du chapitre 11, vous y ajoutez le texte des Romains, que je vais encore lire avec vous, puisque nous avons encore quelques instants, Romains chapitre 4, au sujet d'Abraham. Que dirons-nous donc d'Abraham, notre ancêtre selon la chair? Qu'a-t-il obtenu? Si en effet Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais devant Dieu, il n'en est pas ainsi. En effet, que dit l'Écriture? Abraham, qu'est-ce qu'il a fait? Cru à Dieu. Et cela lui fut compté comme justice. Quand vous croyez, eh bien, le Seigneur le voit. Or, verset 4, à celui qui fait une œuvre, le salaire est compté non comme une grâce, mais comme un dû. Quant à celui qui ne fait pas d'œuvre, mais croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est comptée comme justice. De même, David proclame le bonheur de l'homme au compte de qui Dieu met la justice sans œuvre. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur ne compte pas son péché. Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis, les Juifs? Ou est-il également pour les incirconcis? Car, nous disons, pour Abraham, la foi fut comptée comme justice. Comment donc était-il lorsqu'elle lui fut comptée? Était-il circoncis ou non? Il n'était pas encore circoncis. Il était incirconcis. Et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis. Il est ainsi le père de tous ceux qui croient. Qu'est-ce qu'Abraham est pour nous le père de ceux qui croient? Bien qu'incirconcis pour que la justice leur soit comptée. Et il est aussi le père des circoncis qui n'ont pas seulement la circoncision, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham quand il était circoncis, quand il était incirconcis. Donc, mes amis, Abraham a laissé des traces, et nous devons retrouver ces traces et marcher dans ces traces. En effet, ce n'est point par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa descendance, c'est par la justice de la foi. Si c'est par la foi qu'on est héritier, la foi est vaine. Si c'est par la loi qu'on est héritier, la foi est vaine et la promesse est annulée. Car la loi produit la colère et là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas non plus de transgression. Donc, c'est par la foi pour qu'il s'agisse d'une grâce afin que la promesse soit assurée à toute la descendance, non seulement à celle qui a la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre père à tous. Selon qu'il est écrit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père à tous, devant Dieu, en qui il a cru, qui donne la vie aux morts, et qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Espérant, en toute espérance, il crut et devint ainsi père d'un grand nombre de nations, selon qui avait été dit, tel sera ta descendance. Et sans faiblir dans la foi, il considéra son corps presque mourant, puisqu'il avait près de 100 ans, et le sein maternel de Sarah déjà atteint par la mort. Sans faiblir dans la foi, alors que tout était contraire. Mais face à la promesse de Dieu, il ne douta point, et ça vous devez le prendre pour vous, par incrédulité, mais fortifié par la foi, il donna gloire à Dieu. Pleinement convaincu de ceci, ce que Dieu a promis, il a aussi la puissance de l'accomplir. Il faut que ces choses ne soient pas seulement dans la Bible, mais dans votre cœur. Ce que Dieu a promis, il est puissant pour l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut compté comme justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit. Cela lui fut compté. C'est aussi à cause de nous, qui sommes ici rassemblés, hein, à qui cela sera compté, nous qui croyons en celui qui a ressuscité d'entre les morts, Jésus notre Seigneur, livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. Eh bien voilà, nous vous laissons maintenant avec la parole et nous nous retrouverons ici après votre atelier. Et comme je vous l'ai dit, je serai dans les couloirs. Donc, vous avez la collation, si vous voulez, et de 10h15, lecture et méditation individuelle dans les chambres. À 10h45, chacun rejoint son groupe, puis vous partagez. Et connaissance ou obéissance. Je dirais, cet après-midi, au début de notre rencontre, nous ferons la conclusion de ce matin, hein, parce que l'heure est avancée. Mais je vous dis simplement ceci. La première de ces brochures, c'était « Dieu est-il responsable du péché ?» Mon Seigneur. Ô Dieu, oui, tu es notre Père, et tu veux que les uns et les autres nous puissions expérimenter que tu nous traites comme des fils. Tu sais que nous avons des épreuves, chacun les siennes, mais comme tu les connais, nous voulons maintenant te faire confiance. Que ce soit là notre attitude et que nous soyons vraiment dans la foi, dans cette confiance éperdue que tu n'as pas dit ton dernier mot et que tu es capable d'agir, et que nous puissions déjà par notre confiance et en restant dans la paix, te glorifier en te donnant gloire. Tout cela nous te le demandons par la puissance de ton esprit, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Eh bien, mes amis, je vous ai dit qu'on ferait un peu la conclusion de ce que vous avez dit dans les ateliers. Je voudrais souligner tout de suite que j'ai été édifié par ce que nous a dit Douglas au sujet des aigles. Vous connaissez le fameux passage du Deutéronome, au chapitre 32. Et nous savons que c'est vraiment ainsi que ça se passe. Les aigles habitent sur le haut des rochers. Et c'est là qu'ils ont leur nid, qu'ils ont leurs petits. Et au verset 11 du chapitre 32, il est dit ceci, « Comme l'aigle éveille son nid, plane au-dessus de ses petits, étend ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes, l'Éternel seul la conduit. Et il n'y a point eu avec lui de Dieu étranger. » Et c'est vraiment merveilleux. Pour apprendre aux petits aiglons à voler, eh bien, on les précipite dans le vide. Mais c'est l'aigle qui les prend, et puis qui secoue ses ailes, et ils tombent. Et alors, évidemment, ils essayent, ils découvrent qu'ils ont des ailes, mais ils se fatiguent bien vite. Et que fait la mère? Eh bien, elle passe finalement dessous, comme l'a dit notre frère, si j'ai bien compris ce que tu as dit, elle les prend sur ses ailes, elle les ramène là-haut. Alors, mes amis, qui avez peut-être des troubles dans vos familles, au sujet de vos enfants aussi, dites-vous que le Seigneur n'a pas dit son dernier mot et qu'il peut les ramener. Ce n'est pas eux-mêmes qui remonteront, mais c'est le Seigneur, par sa grâce, qui les ramènera. Dieu ne nous a pas donné des enfants pour la perdition. Il nous a donné des enfants pour le salut. Mais on ne peut rien forcer. Vous ne pouvez pas forcer vos enfants. Mais vous pouvez croire éperdument que le Seigneur ne vous a pas sauvé, seulement vous. Puis tant pis pour les enfants. Mais si vous avez cette confiance dans le Seigneur, et si vos enfants voient dans votre foyer cette foi au travers des difficultés, eh bien, ils s'en souviendront. Et tôt ou tard, le Seigneur peut les ramener. Je dis ça parce que j'ai été frappé par l'histoire que nous a racontée Douglas et qui se trouve dans la parole. Maintenant, au sujet de cette matinée et des réponses à ces questions. Quand j'ai demandé au Seigneur comment traiter ce sujet, il m'a convaincu qu'il ne fallait pas éviter ce chapitre 11, qui pouvait, dans l'Épître aux Hébreux, nous donner des exemples d'hommes qui ont eu la foi. Et alors, j'ai pris ce chapitre 11. Au verset premier que vous avez médité, et sur lequel on avait presque déjà donné la réponse, est-ce que la foi, qui est l'assurance des choses qu'on espère, et la conviction de celles qu'on ne voit pas, est-ce que c'est vraiment une définition de la foi, ou est-ce que là se trouvent exprimés différents caractères que peut manifester la foi? Et c'est ce que nous croyons, parce que ce n'est pas directement une définition de la foi au verset premier. Nous voyons différents caractères, et ces caractères vont être illustrés par des exemples d'hommes. Alors, prenons le premier qui est cité après cette affirmation que c'est par la foi que nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qui se voit n'a pas été fait de choses qui paraissent. Donc, pour comprendre la création, il faut la foi. Et ce que nous lisons alors, vous l'avez cité, dans Romains, chapitre 1er, l'œuvre de la création devrait nous parler, justement, du Créateur. Au chapitre 1er des Romains, il est dit que les hommes sont inexcusables de ne pas croire alors et qu'ils voient. Chapitre 1er des Romains, verset 18, « La colère de Dieu est révélée du ciel contre toute impiété et toute iniquité des hommes qui possèdent la vérité tout en vivant dans l'iniquité. Parce que ce qui se peut connaître de Dieu est manifeste parmi eux, car Dieu le leur a manifesté, car depuis la fondation du monde, ce qui ne se peut voir de Dieu, donc les choses invisibles, sa voix et sa puissance éternelle et sa divinité ce qui ne se peut voir de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se discernent par le moyen de l'intelligence, par les choses qui sont faites de manière à les rendre inexcusables. Donc l'œuvre de la création devrait nous convaincre déjà qu'il y a un Dieu. Et c'est ce que nous avons dans cet épître aux Hébreux, au verset 3. Par la foi, nous comprenons que les mondes ont été formés par la parole de Dieu, de sorte que ce qui se voit n'a pas été fait de choses qui paraissent. Et ensuite, alors, il y a Abel, dont vous trouvez le récit dans la Genèse, au chapitre 3 ou 4. Alors, qu'est-ce qui nous apprend Abel ? Eh bien, au sujet de la foi, la vie d'Abel nous fait comprendre que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Ça, c'est clair. Abel vous fait comprendre que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il avait saisi cela. Ensuite, après Abel, il est bien question de Caïn, mais Caïn, lui, il a voulu offrir aussi un sacrifice. Mais qu'est-ce qu'il a offert ? Ses œuvres. Alors, vous avez les deux religions, là, et qui sont manifestées dès le début de la Genèse. Ceux qui croient que par leurs œuvres, ils peuvent plaire à Dieu, et ils apportent le fruit de leur travail. Et puis ceux qui sont convaincus que le péché étant si odieux aux yeux de Dieu, il n'y a pas de pardon sans effusion de sang. Et qu'est-ce qu'il a offert, Abel ? Un sacrifice. Abel a offert un sacrifice. Et c'est cela que nous apprenons d'Abel. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Alors, la foi commence par ce sacrifice. Et pour nous, quel est le sang qui parle mieux que celui d'Abel ? Le sang du Christ. Le sang d'Abel, le sang du sacrifice d'Abel nous parlait du sang plus excellent, de l'agneau de Dieu, très connu dès avant la fondation du monde. Maintenant, dans la vie d'Enoch, qu'est-ce que nous pouvons voir ? Eh bien, comme nous le disions déjà ce matin, chez Enoch, qui se trouve dans ce chapitre 5 de la Genèse, où la vie des hommes de Dieu du commencement est mentionnée, il est toujours dit, le refrain qui revient sans cesse, c'est « Et il mourut, et il mourut, et il mourut ». Quel que soit leur âge avancé. Et puis tout à coup, nous avons, au verset 20, tous les jours de Jéred furent 962 ans, et il mourut. Et Jéred avait engendré qui ? Enoch. Et Enoch vécut 65 ans et il engendra Méthusalem, qui vivra le plus longtemps. Et Méthusalem marcha, et Enoch, après qu'il eut engendré Méthusalem, marcha avec Dieu pendant combien d'années ? 300 ans. Alors, c'est au bout de combien de temps qu'il a été enlevé ? Il avait quel âge quand il a été enlevé ? 365. Et qu'est-ce que c'est ces 365 ? C'est le nombre d'une année, hein ? 365. Et il engendra des fils et des filles. Il marcha avec Dieu 300 ans. Donc avant, il était comme tous les autres, mais il y a eu un moment dans sa vie où il a eu un changement. Et il marche avec Dieu. Et il engendra des fils et des filles. Et tous les jours d'Enoch furent 300 ans, 365 ans. Il marcha avec Dieu, donc c'est toujours ça qui est mis en avant. Et il ne fut plus. Est-ce qu'il est mort? Non. Et là, il représente cette génération, parce que la Bible en parle dans bien des endroits. Il y a une génération dans ce monde qui ne connaîtra pas la mort, enfin les croyants, et qui seront eux-mêmes enlevés. Ils ne seront plus trouvés. Ils auront été enlevés. Vous pouvez douter, mais vous pouvez aussi le croire. Jésus a dit qu'il reviendrait, et quand il reviendrait, sur les nuées du ciel, il enlèvera auprès de lui ceux qui croient, qui l'ont reçu, et qui l'attendent, et qui désirent justement une cité céleste. Et vous savez, je crois que nous sommes bien proches de ce moment. Mais en attendant, qu'est-ce qu'il nous faut faire? Marcher avec Dieu. Et si vous revenez dans les Hébreux, au chapitre 11, verset 5, Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit pas la mort, et il ne fut pas trouvé parce que Dieu l'avait enlevé. C'est quelque chose, hein? Dieu l'avait enlevé. Voilà pourquoi il l'avait. Avant son enlèvement, alors voilà ce qui doit nous convaincre. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a reçu le témoignage d'avoir plu à Dieu. Eh bien, c'est cela la vie de la foi. Une vie de foi apporte à notre existence un témoignage qui plaît à Dieu. Et il est bien souligné, sans la foi, il est impossible de lui plaire, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Et voyez-vous, cette rémunération pour ceux qui le recherchent sera d'avoir part à cet enlèvement. Mais est-ce que vous vous réjouissez de cela? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Ou est-ce que vous aimez mieux rester ici-bas et construire une nouvelle maison? Parce que vous n'attendez pas l'autre. C'est que vous n'y croyez pas alors. Mais ceux qui savent qu'il y a une cité qui est préparée, ben ils se réjouissent. Ils se réjouissent. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas construire une maison. Mais enfin, cette maison, elle ne sera toujours qu'une tente. Nous n'avons pas ici-bas de cité permanente. Et nous n'attachons pas nos cœurs aux choses d'en bas, à notre demeure d'en bas. Notre vrai chez nous, c'est où? C'est là-haut. Où est le Seigneur? Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et alors, nous avons des affections célestes. Et alors, si Enoch nous parle de ceux qui seront enlevés, Noé, au sujet de la foi, qu'est-ce qu'il nous apporte? La certitude que la foi produit des œuvres. Et que pour être sauvé, il ne suffit pas d'avoir une foi intellectuelle, mais la foi du cœur. Et Noé, eh bien, nous montre l'œuvre de la foi. Dieu a parlé à Noé et lui a dit de construire une arche. C'est pas Noé qui a eu cette idée de faire une arche, mais il a cru la parole du Seigneur. Et au sein d'un monde où il n'était pas question d'eau, eh bien, il construit l'arche. Pourquoi? Parce que Dieu le lui a dit. Et parce qu'il a construit cette arche, et que pendant 120 ans, les hommes ont eu ce témoignage de quelqu'un qui pouvait expliquer que s'il construisait cette arche, c'est parce qu'il avait reçu de Dieu une parole qui lui disait que les hommes allaient périr. Le monde allait être détruit. Et Jésus a repris l'exemple de Noé et a dit que quand son retour serait proche, le monde serait dans un tel état qu'il ressemblerait à quoi? Au temps de Noé. Et qu'est-ce qu'il y avait au temps de Noé? l'injustice et la violence. La violence et l'injustice, la méchanceté étaient sur la terre. Et alors, le déluge vint et les fit tous périr. Puis il a ajouté qu'il en serait aussi comme au jour de Lot. Et qu'est-ce qu'il y a de pire encore qu'au temps de Noé? C'est que nous sommes au jour de Lot, il n'y a plus de mariage. Parce que dans au temps de Noé, on se mariait encore. Il est dit, il se mariait, n'est-ce pas? Tandis qu'au jour de Lot, il n'y a plus question de mariage. Chacun vit comme il pense. Et plus on a eu de femmes, mieux ça vaut. Hein. Et puis, on organise tout. Et maintenant, vous avez même des remèdes pour que vous puissiez encore accomplir cette chose, faire l'amour à 70 ans ou plus. Puis en mourir, hein? Voilà. Nous sommes dans ces temps-là. C'est l'Écriture qui l'enseigne et nous la croyons. Maintenant, Abraham, qu'est-ce qu'il nous a apporté? Eh bien, je dirais l'obéissance. Abraham ayant été appelé, si vous lisez toute l'Écriture, il a obéi. La foi est une marche, la foi est aussi une œuvre, produit une œuvre, mais pas une œuvre morte, hein, mais les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Le Seigneur veut que nous pratiquions des œuvres que lui a préparées. Vous n'avez pas besoin de chercher des œuvres. Qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce que je pourrais inventer pour le Seigneur? Accompli ton témoignage. Le Seigneur a préparé des œuvres pour que tu les pratiques. C'est ce que nous enseigne Abraham, Noé. Et Abraham, il obéit. Et on pourrait longuement parler d'Abraham. Et je vous cite simplement le psaume 51, où il est dit, regardez à Abraham, regardez Abraham, prenez l'exemple d'Abraham et vous saurez que la foi, c'est une obéissance. Il obéit quand il part de son pays pour aller au lieu que le Seigneur lui avait demandé, mais Abraham ne savait pas où il allait. Mais il avait reçu cette promesse qu'il aurait une postérité. Mais c'est justement cela qui était difficile. Il vieillissait, et sa femme aussi, il la voyait vieillir. Et alors, la pauvre Sarah, comme nous l'avons dit, elle a eu une défaillance. Laquelle? En voyant son mari, elle a pu dire, il est trop vieux. Et qu'est-ce que Dieu voulait nous donner? Il voulait nous donner un fils. Mais on va essayer d'aider Dieu. Et je pense que c'est Sarah qui a inventé ce verset qui n'est pas biblique. Aide-toi, et le ciel t'aidera. Hein? Puisque Dieu a promis qu'il voulait nous donner un fils, on va lui aider. Mère porteuse. Alors, c'était moderne, n'est-ce pas? On prend une mère porteuse, on prend la petite servante, et puis Abraham, ben, il n'a pas dit non. Un homme, c'est rare qu'il dise non. Hein? Hélas. Trois fois hélas. Mais la pauvre Sarah, elle l'a payé cher. Hein. Il y a eu l'enfant, mais c'était Ismaël. Et qu'est-ce que ça a donné? L'ennemi du fils qui était promis, qui n'était pas encore là. Hein. Quand on veut aider Dieu, on se trompe totalement. Il faut rester dans l'attente. Et c'est justement quand il y a plus de possibilités que Dieu va se montrer. Et voyez-vous, du côté de l'homme, la confiance que vous manifestez aux promesses de Dieu honore Dieu. Et puis, pour Dieu, ça lui donne la possibilité d'intervenir quand il n'y a plus d'espoir. Comprenez-vous? Laissez à Dieu le temps. Et quand il n'y aura plus d'espoir, alors ce sera une manifestation de sa puissance. Et puis on se demande aussi pourquoi, quelquefois, Dieu a permis l'épreuve au sujet d'Isaac. Dieu a donc accompli sa promesse. Isaac